Bonjour à toutes et tous, ici Arlette Farah
et Fulgence Blain.
Vous écoutez Regards croisés. Alors aujourd'hui, Fulgence, c'est bien... Aujourd'hui, nous allons vivre au théâtre à la rencontre de Ariel Ifergan pour la pièce qui s'appelle « Adieu, Monsieur Hoffmann » et qui va se jouer au Théâtre du Rideau Vert à partir du 29 septembre.
« Adieu, Monsieur Hoffmann ».
Oui, parce que c'est une pièce qui... on va en parler tout à l'heure avec Ariel et dans un instant, et ça sera très intéressant de le faire avec lui, mais c'est dans un contexte bien particulier, puisque ça se passe dans la France de l'occupation allemande, que lui est de confession juive, est un bijoutier, et qu'il n'a pas bien le choix d'entrer en clandestinité, puisque l'Allemagne nazie prend le contrôle de la capitale française. Voilà.
Paris, voilà.
Et toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
De mon côté, je vais parler de, c'est une nouvelle un peu triste, du décès de Ronald Bell, le cofondateur du groupe, du fameux, du groupe mythique Kool & The Gang, qui nous a quittés dans la nuit de mercredi à jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est-à-dire hier soir. Donc, ensuite, parler du nouvel album, aussi surprise de Bruce Springsteen, qui a attendu le 23 octobre.
Tiens, d'accord.
Mais il y a une pièce qui est déjà en liste.
Qui est déjà préparée.
Voilà, préparée.
Okay. À tout de suite. Et là, on part avec la chanson de Bardot qui nous fait « N'oublie jamais ». Ariel Ifergan, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Ariel, ça fait plaisir de t'entendre.
Ben oui.
Écoute,
comment vas-tu ?
Je vais bien et j'ai surtout très hâte de voir et d'entendre parler encore plus de Adieu Monsieur Hoffman que tu vas jouer, qui a été écrit par Jean-Philippe Daguerre et qui est mis en scène par Denise Filiatro.
Exactement.
Donc j'ai déjà un petit peu situé tout à l'heure l'ambiance dans la présentation de départ, mais tu vas nous en parler un petit peu plus parce que je veux juste te dire que moi je t'ai déjà vu jouer, je t'apprécie énormément comme comédien et tu as une chance exceptionnelle parce que c'est vraiment une pièce qui a été jouée depuis longtemps un petit peu partout, une pièce dont on va tirer un film bientôt, qui a eu 4 Molières en 2018. Enfin, c'est un rôle waouh. Si ce bruit-là exprime mon admiration dessus, c'est un très beau rôle. Alors, je te laisse en parler petit peu plus.
Ben, je partage ton enthousiasme. C'est sûr, la pièce est vraiment très bien écrite. L'intrigue fonctionne très, très bien. On a les deux mains dedans en ce moment. C'est sûr, on est en pleine répétition. Puis, on est très, très content. Ensuite, c'est un honneur, c'est un plaisir de jouer une bonne pièce. Et là, il y a le fait que c'est un retour au travail après le confinement, donc ça rajoute une dimension, une petite fébrilité de plus. On a le sentiment de vivre un moment historique, tous, pour différentes raisons, mais c'est sûr que c'est une réouverture de théâtre, donc il y a quelque chose d'historique. D'ailleurs, on rigolait aujourd'hui, par exemple, le photographe. Il y a toujours un photographe qui vient à un moment donné dans les répètes pour des archives du théâtre, tu sais, qui prend quelques photos. Puis là, on me disait, on a fait au moins la moitié des photos avec masque et lunettes, parce que j'ai dit, mais non, mais ça va être, tu sais, quand mes petits-enfants, ça va être dans les livres d'histoire, là. Oui, je me rappelle, en 2020, il y avait eu la COVID et on avait répété avec des masques. Ah, non, papy, t'exagères, voyons, comment répéter avec des masques, je te jure.
Tu nous racontes des histoires. Non, c'est vrai, je te jure que c'est vrai.
Fait que je voulais avoir des photos de ça. C'est sûr que c'est une période, mais là je suis parti sur la COVID, mais c'est une période particulière pour le travail parce que autant sur les plateaux de tournage que dans les locaux de répétition, il y a toute une nouvelle façon de fonctionner, de travailler. C'est ce qui a été négocié avec la santé publique pour que tout le secteur culturel puisse repartir. Et il y a dans chaque salle de répétition et sur chaque plateau de tournage, il y a soit un assistant, soit une assistante qui est uniquement concentrée sur le respect des mesures de sécurité. C'est-à-dire, elle s'assure que on garde le masque dans telle situation, on est autorisé à l'enlever dans telle situation et ainsi de suite, on se lave les mains.
Je me doute que tout doit être très bien respecté.
Exactement.
Est-ce que tu nous resitues l'histoire puisque tu es le personnage central de l'histoire, si on peut le dire ainsi?
Oui. Alors, l'intrigue se passe à Paris pendant l'occupation. Donc, Paris est occupé par les Allemands et M. Hoffman a une bijouterie. Monsieur Hoffman est juif. Il a réussi à faire sortir sa famille. Ma femme et mes 4 enfants ont quitté pour la Suisse.
En Suisse, voilà.
Et ce qui est bien important de se souvenir, c'est que l'antisémitisme était présent depuis un bon moment en France, mais vraiment la discrimination, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est de plus en plus de mesures, de plus en plus d'étapes qui ont mené à la Shoah. Mais tout ça s'est fait de façon progressive. Ce qui fait que, quand on se remplace dans le contexte historique, les gens ont pris du temps, même les communautés juives ont pris beaucoup de temps à comprendre ce qui allait se passer, qu'est-ce qui se passait, jusqu'à quel point, ça va durer combien de temps. Et donc, on est en plein dans cette période-là, au début de l'occupation. J'ai réussi à faire quitter ma famille et la bijouterie c'est la catastrophe parce qu'il y a un boycott de tous les commerces juifs.
Bien sûr.
Et en plus, une bijouterie en temps de guerre, c'est pas le moment où les gens vont acheter des bijoux et tout ça. Alors, je propose à mon assistant, avec qui je travaille depuis 10 ans, qui s'appelle Pierre Vigneault, qui est un Français catholique, je le convoque dans mon bureau et je lui dis, écoute Pierre, on s'entend très bien, j'ai confiance en toi. Je vais te céder la bijouterie, qui est toute ma vie. Ça va devenir la bijouterie Hoffman, va devenir la bijouterie Vigneault. Et tu vas aménager dans les appartements qui sont juste au-dessus de la bijouterie avec ta femme. Et moi, il y a une seule, je te demande une faveur, pas une condition, mais je te demande une faveur, c'est moi, je vais descendre à la cave et je vais rester caché à la cave. Et Pierre Vigneault, donc, qui est un bon français moyen, avec qui j'ai une très belle complicité, il accepte. Il accepte de prendre cette bijouterie et de me cacher donc au sous-sol, faire semblant que je suis parti puis que j'ai laissé la bijouterie. Alors ça, c'est le point de départ.
Oui, ça, c'est le pitch de départ, mais c'est voilà, loin d'en être toute l'histoire.
Je n'en dis pas plus, mais c'est sûr que Madame Vigneault et Monsieur Vigneault vont emménager.
Et puis, voilà. Ce sont d'autres personnages qui vont être là aussi.
À plus tard, c'est ça. Et Vigneault, donc, est vraiment un bon gars, mais il va quand même vivre, et ça je trouve que vraiment dans l'écriture c'est bien dosé, parce que des fois on prend des risques, on prend des décisions, mais on ne sait pas ça va durer combien de temps. Et là il faut bien comprendre que l'occupation, ce n'est pas une semaine ou deux là,
des années. Ça a duré.
Et là, il y a toutes les étapes, les bonnes journées, les mauvaises journées, les détails du quotidien, comment gagner sa vie, comment fonctionner à trois avec quelqu'un qui est caché au sous-sol, mais quelqu'un qui est le patron, qui est le propriétaire, mais qui tout d'un coup devient l'espèce de... Et les Vigneault risquent leur vie aussi en cachant un juif. Mais toutes ces choses-là, ils s'en rendent compte au fur et à mesure que les lois nazies sont de plus en plus imposées, puis que là, tout d'un coup, les Français et les Juifs se rendent compte, OK, mais c'est pas juste quelques mesures vexatoires, c'est de plus en plus grave. Et fait que ça, pour ça, l'écriture de Jean-Philippe Daguerre, je trouve qu'elle est vraiment bien dosée, et ça m'amène à parler un peu, tu sais, de la différence entre un historien qui écrit un livre d'histoire, un journaliste qui fait une enquête ou qui écrit... et un auteur de théâtre et des comédiens et une metteur en scène qui, eux, vont parler aussi d'une période historique, mais à travers le prisme du théâtre.
Oui, à travers leur regard, mais on va en parler tout de suite après, en deuxième partie. Et je voulais juste dire, avant qu'on parte en musique, que dans ce moment tragique de l'histoire, tous les personnages ne sont pas des héros, ce sont juste des humains et qui voient leurs intérêts... parce qu'ils sont animés soit par la peur, soit par le courage, soit par l'amour, soit par la haine. C'est une histoire qui est drôle, mais tragique aussi, la façon dont elle est montée. Et puis, ça a l'air d'être très intéressant. Mais un petit moment musical, on part avec Samuel qui nous chante « Résiste ». Et on revient tout de suite après. Et mon collègue Fulgence Blas aura des questions à te poser également. À tout de suite.
À tout de suite.
Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuge ce monde. Sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur. Monde
Alors Ariel, tu es toujours avec nous ?
Absolument.
Il n'a pas raccroché. Bonjour. Bonjour Ariel, c'est Fulgence.
Bonjour.
Oui, oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a approché pour jouer le rôle de Monsieur Hoffman. Vous avez dit.
Oui.
Pourquoi moi ?
Il a sauté au plafond. De joie.
Ben écoute, honnêtement. C'était une très belle journée.
Oui.
J'ai raccroché le téléphone avec Denise Filiatro et j'étais très content qu'elle me propose ça. C'était génial. On avait eu 2 ans auparavant, j'avais eu le plaisir de travailler avec elle dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'elle avait mis en, elle a mis en scène l'adaptation.
Donc
du
c'est
film.
De votre deuxième collaboration.
Voilà, exactement. Alors elle m'a proposé ça, j'étais vraiment enchanté. Après ça, j'ai lu la pièce, j'étais encore.
Plus enchanté.
Plus enchanté.
Plus aux anges.
Et puis, oui, non, mais c'est vraiment, c'est super. Après ça, ben, tout ça, c'était bien avant Covid. Après ça, il y a eu tout le suspense qui, finalement, dure encore un peu. Mais cette histoire de, évidemment, au printemps, comme tout le monde, tout a été arrêté. Au début, on pensait que ça allait être pour quelques semaines. Après ça, on s'est dit peut-être plutôt un mois. Puis après ça, on s'est dit oh, ok, peut-être que ça va être pour toute l'année.
Ouais, ça me fait penser à la pièce aussi.
Ouais. Ben oui.
Ça dure longtemps de rester dans la cave.
Ouais, absolument. Non, mais écoute, on fait ce parallèle. Évidemment, je ne veux pas du tout faire de parallèle boiteux entre l'occupation allemande et la Covid-19.
Non, c'est ça.
Mais en même temps. Il y a quand même des petites choses qu'on a vécues. Je sais que j'ai entendu plusieurs fois dans des émissions de radio des économistes dire « on n'a jamais vu ça, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale ». Pareil, nous, je veux dire, des gens qui ont eu un quotidien, disons, ordinaire, qui a un quotidien qui se passe dans une ville où il y a la paix, où tout va bien. Tout d'un coup, on a connu cette histoire-là de Covid, tout est fermé, on n'avait jamais vu ça. Et le fait de se faire retirer son quotidien pour tomber dans l'inconnu, mais ça, oui, il y a de ça. Alors,
voilà, ça
ce
ressemble.
Confinement, ça, il y a des parallèles à tirer, et je pense que, disons que quand on se dit, ben ouais, malgré tout le confort, malgré le fait que toute ma famille était en santé, que vraiment, je n'ai pas eu très dur pendant Covid, mais quand même, on a vécu de l'anxiété, malgré que tout allait bien.
Oui, hein? Tout à fait.
Alors, j'imagine, j'ose même pas imaginer en temps de guerre.
Oui, 14, 18, 39, 45, oui.
Exactement, on se disait, mais ok, c'est des mois et des années de risquer sa vie et tout ça. Donc c'est sûr que ça a fait partie de nos conversations quand même, en répétition, ça a fait partie de nos conversations.
Et juste pour, en revenant sur la pièce,
oui.
On y découvre aussi, c'est aussi l'interrogation. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? De quoi on est capable ? Dans notre
Absolument.
Vie de d'habitude, quand on est protégé, on peut, on ne sait pas si on va être lâche, si on va être courageux, comment on va réagir. Et là, face à cette histoire, il y a d'autres rôles dans cette pièce, dans le livre, et qui fait que y a des personnages qui se découvrent. Après, c'est... Comment je réagis quand je suis dans cette circonstance ? Quand on te parle, est-ce que tu peux faire telle et telle chose ? Tu vas dire oui, mais quand tu es confronté à la chose en elle-même, ta réaction peut être complètement différente.
Non, tu as tout à fait raison. C'est une pièce très réaliste, dramatique. Elle est réaliste parce que je ne pense pas que M. Hoffman ait existé avec une bijouterie, tout ça. Par contre, il y a deux personnages qui sont dans la pièce et qui, eux, existent. Je veux dire, on peut les trouver sur Wikipédia, ils sont connus. Toute l'époque, tout ce qui se passe dans la pièce est tout à fait plausible, est tout à fait réaliste. Il y a eu des juifs cachés, tout ça. Donc ça, tout est possible. Et ce que tu amènes comme questionnement, il est absolument central, je suis tout à fait d'accord. Et la réponse n'est pas simple. Dans le sens que on peut être un héros le mardi Et il faut
pas un lâche le mercredi.
Mercredi matin, on peut se lever et ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Alors on espère tous qu'en situation difficile, je serai un résistant, je serai un
courageux,
que je garderai ma dignité, que je serai courageux. Oui. Mais la question, elle est difficile. Si je risque la vie de mes enfants pour sauver mon voisin, c'est est-ce vrai. Que je vais le faire ou pas?
Ouais.
Alors je pense que les gens qui ont de la sagesse se pose la question avec une certaine modestie. Mmh. On espère qu'on sera à la hauteur, mais on ne peut pas être sûr, malheureusement.
Et la deuxième question, c'est aussi, quand on donne l'exemple de l'argent n'a pas d'odeur, est-ce qu'on doit absolument vendre pour vendre à n'importe qui, ou est-ce qu'on doit aussi avoir des...
Absolument,
comment dirais-je, pas accepter des limites, parce que c'est une bijouterie, mm-hmm. c'est les Allemands qui sont là, qui c'est qui a de l'argent, c'est ceux qui envahissent. Est-ce que on leur prend leur argent, ou est-ce que en vue de tout ce qui s'est passé, on se sent en droit de refuser?
Ouais.
C'est aussi un questionnement moral, hein, qui vient dans
ce débat entre Pierre Vigneault et à un moment donné charnière dans la pièce entre Hoffmann et Vigneault. Ils ont cette discussion parce que c'est très difficile d'avoir des nazis convaincus qui rentrent dans la boutique, qui achètent des bijoux et en même temps
sachant tout ce qu'ils ont
Vigneault,
fait quoi,
mais Vigneault il lui réplique, il lui dit: à qui veux-tu que je vende des bijoux?
Oui, c'est vrai,
les Français crèvent de faim, les Juifs ils ont tous disparu, déportés,
c'était les maîtres de la ville,
et ben voilà. Et puis aussi, on s'est parlé, on s'est rappelé ça aussi pendant les répètes, on s'est dit oui, ça semble un peu... c'est ça, c'est des petits détails du quotidien.
C'est ça.
Quand on lit un livre d'histoire, ça raconte
pour ça
pas forcément
que...
les détails du quotidien, mais quand on est dans le concret, ces gens-là, s'ils vendent rien, si on ne vend pas de bijoux, mais on n'a plus rien à bouffer. Donc à un moment donné, le détail du quotidien, il va falloir la faire, l'épicerie. T'sais. Et ces personnages-là... ils vivent ça aussi. Et ce n'est pas anodin. Quand on le vit, ce n'est pas anodin.
Il y a aussi ça. On peut aussi se dire, après tout, ils sont là, ils ont envahi, donc on leur prend leur argent. Ce n'est pas plus mal.
Pour manger.
Non, mais tu sais,
ça
peut être cette réaction, plus avoir la réaction de se dire, mon Dieu, avec tout ce qu'ils ont fait, je ne voudrais même pas qu'ils mettent le pied dans le magasin.
Ouais.
Il y a tout plein de choses qui peuvent se dire là-dessus. Et c'est pour ça que cette pièce, elle a l'air d'être particulièrement intense. Et est-ce qu'on va la voir sur web ou ça va être que dans le
Écoute,
théâtre?
Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Non, c'est au théâtre, c'est sûr que c'est au théâtre. Le théâtre
D'accord.
a ouvert en respectant toutes les consignes de la santé publique.
Okay.
Donc la vente de billets va très bien, il y aura distanciation, il y aura...
Il y a combien de personnes qui sont admises?
Alors, il y a à peu près 150 personnes sur une salle de 400.
Quel dommage.
Si vous y allez en couple,
mon Dieu, quel
par
dommage.
Exemple, vous allez être avec la personne qui vous accompagne, évidemment. Mmh. Mais il y aura des places libres devant, derrière,
D'accord.
à droite et à gauche. Enfin, tout a été prévu pour que ce soit comme dans un restaurant, pour que tout soit correct. Mais voilà. Alors,
on souhaite.
Il y a moins de monde.
On souhaite belle vie à Dieu, Monsieur Hoffmann. C'est vraiment dommage que ça puisse pas être comme d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour
Absolument.
Ceux qui peuvent, allez-y, parce que c'est certainement une pièce fantastique. Moi, je trouve que c'est une belle histoire et ça vaut le coup de faire, ne serait-ce que pour continuer à se rappeler et savoir dans tous les sens du terme. Ariel,
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir été là. C'était
merci
vraiment un gros plaisir pour nous.
Merci.
Et puis, on te souhaite, je te dis le mot de Cambronne. Puis, bonne
je
chance.
Ne réponds pas.
Bon show.
À bientôt, au revoir.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire du bruit, et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis.
garçon qui nous ressemblait. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable, les pas des amants déchaînés.
Mon plaisir personnel, et puis je l'espère pour le vôtre aussi, on entendait Iggy Pop qui nous chantait Les Feuilles Mortes. Je crois que j'adore sa voix comme ça et ça me fait craquer grave, comme diraient les enfants. Adieu Monsieur Hoffmann, rappelez que c'est au Théâtre du Rideau Vert, Théâtre du Rideau Vert, l'adresse 4664 rue Saint-Denis. Ne ratez pas cette pièce, elle vaut vraiment la peine. À tout de suite, restez avec nous.
Écoutez Regards Croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Vous êtes toujours à l'écoute, bien sûr, de Regards Croisés, la deuxième demi-heure de l'émission. Et bon, tout doucement, on t'en met la fin. Ah, on va tout de suite en musique avec le groupe Kool & The Gang, Fresh.
No one knows.
Fresh, Cool and the Gang. Pourquoi ce tube? Ce tube, c'était une manière de faire un clin d'œil aux autres membres du groupe qui sont encore en vie. Parce que hier soir, il y a Ronald Belt, l'un des cofondateurs de ce groupe Cool and the Gang, nous a quittés pour l'au-delà. Que la terre lui soit légère. Ah, il est mort à l'âge de 68 ans. C'est pas vieux,
ah oui,
ça,
non,
de
c'est
nos
pas
jours.
Vieux, non.
C'est pas vieux. Il est décédé à son domicile dans les îles Vierges américaines, bien sûr. Voilà. Mm-hmm. Ronald Bell a fondé le Cool and the Gang, un groupe de jazz funk et funk avec son frère Robert, bien sûr. Robert.
Qu'est-ce qui nous a fait danser? Qu'est-ce que j'ai des bons souvenirs, moi, dessus.
Cool and the Gang avec Celebration, qui a été le tube,
oh là là.
C'est tout ça.
Extraordinaire.
Avec son frère Robert et ses amis Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West au début des années 60. Au début, j'étais même pas encore né.
Au début des années 60, surtout, moi, c'est plus dans les années 80 que je les ai
connus. Oui, mais le groupe a été fondé.
Ah, le groupe
là.
A été fondé.
On n'a pas ce tube là. Non, ouais. Non, voilà. Alors, disons, c'est ça, ça. Et puis ça roule encore.
Les années 60, ils ne devaient pas être bien grands. Ils ne peuvent pas l'avoir fondé à la fin, alors, des années 60, plus en 70.
Au début des années 60.
Il est mort à 68 ans. Il ne peut pas l'avoir fait.
Non.
Il l'a fait à quel âge? À 10 ans, 11 ans.
Ils ont commencé très tôt, ceux-là. Bah, à l'époque,
oui.
Ils ont commencé très tôt la musique.
Je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur de...
Donc, le groupe a obtenu en 78 un Grammy pour sa contribution à la musique du film Saturday Night Fever avec John Travolta.
Ah oui,
oui ça te fait penser aussi au frère Jackson. Ils ont commencé la musique à quel âge? La famille Jackson.
Les plus grands frères étaient grands quand même. Ils n'avaient pas tous 12 ans. mais là, il y a peut-être un...
C'est pareil, c'est pareil dans le groupe là aussi. Il doit y avoir des gens qui sont plus âgés. Bon, donc le groupe a fait son entrée dans le Songwriters Hall of Fame en 2018 aussi. Voilà, il est né à Youngstown, dans l'Ohio, en 51. Oui. Ronald était aussi connu sous son nom. Il s'est converti à la religion musulmane. Et Khalis Bayan, voilà, musicien autodidacte, il a écrit les principaux succès du groupe, dont le plus populaire reste Celebration, dont je parlais.
C'est vrai.
Qui ne connaît pas ça? Moi, j'appelle ça Maurice, il n'aime pas le thème, mais c'est un tube.
Même celui que l'on a écouté ici, qui n'a pas dansé dessus, c'est formidable,
oui.
Et on y danse encore dessus.
Fresh, voilà. Et puis, avant de parler du nouvel album surprise de Bruce Springsteen, qui est attendu le 23, on va écouter une pièce. D'ailleurs, le titre de l'album, il y a une pièce aussi qui porte le nom, Letter to You, une lettre à toi. Je dis que j'écris à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai aucune idée. Alors,
ils ont l'air de dire qu'il revient un peu vers ses premières amours, et tant mieux.
Ah bon?
Du moment où on l'a rencontré, je ne sais pas. C'est ce qu'il dit sur l'album.
Voilà.
Alors
j'aimerais
ça.
Je l'aime bien, Bruce.
Ouais.
Bruce Springsteen, il a annoncé hier la sortie le 23 octobre. Il connaît la date déjà. L'album sort le 23 de son nouvel album. Surprise enregistré avec ses partenaires historiques de E Street Band en 5 jours seulement. C'était après l'album. En 5 jours de studio. Voilà. Donc, il s'agit du 20e album, d'ailleurs, studio du chanteur et puis auteur de 70 ans. Lui, il a 70 ans.
70 ans,
ans de plus que Robert Bell, qui vient de nous quitter.
Qui revienne un peu à ses premières amours, j'aime ça.
Au plus de 50 ans de carrière.
Bravo.
Ouais. Il comprend 9 nouveaux titres, cet album dont je parle, Let It To You. Et puis 3 reprises de chansons enregistrées aussi avant la sortie du premier album studio du Boss en 73. Il dit « J'aime le côté émotionnel de Letter to You ». Il a expliqué aux journalistes qu'ils l'ont déjà rencontré, ou bien qu'ils sont allés le voir sur son site même d'ailleurs, il en parle, au sujet de l'album enregistré dans les conditions d'un concert d'une façon inédite pour une session avec le E Street Band. Là, c'est comme ça les artistes, ça improvise, ça jam et puis tout d'un coup...
Ils allez, disent « Hop !»
Pourquoi on va pas en studio? Allez, on y va. Avec son ou effet sonore, aucun son ou effet sonore n'a été ajouté après l'enregistrement pour conserver un effet brut, comme il aime ça. Et nous avons fait cet album en 5 jours seulement et ça a été l'une des meilleures sessions d'enregistrement que j'ai jamais connues.
Ça, wow. C'est cool.
Voilà, il a mis en ligne le jeudi, le titre de l'album a sorti d'une vidéo qui montre, et cette pièce, on va l'écouter ici, un regard croisé, bien sûr, qui montre des images d'enregistrement du disque dans le studio de Brunswick, dans le New Jersey. Alors, le E Street Band accompagne le Boss depuis son premier album. Voilà, ce sont ses compagnons de route depuis depuis qu'il a commencé à sortir des albums. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Même s'il n'a pas été de tous ses projets musicaux. Et puis le groupe n'avait plus collaboré avec Bruce depuis la tournée de Rivers en 2016. Donc le précédent album du chanteur Western Stars datait de 2019 et avait une collaboration plus médiative que d'ordinaire. Voilà, on va l'écouter tout de suite après. Je vais parler de quelque chose d'autre rapidement. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça a à voir aux fraudeurs. Attention aux fraudeurs, dit qu'il est revenu Québec. Voilà.
Ah oui.
Revenu Québec met en garde la population contre les fraudeurs qui utiliseraient bien sûr des données confidentielles et personnelles afin de produire de fausses déclarations de revenus. On n'en finira pas avec ces fraudeurs, Arlette.
Bah, ils essayent. Après, s'ils arrivent à en attraper un sur mille, et bah, c'est tout ça de gagné.
Malheureusement, ils en attrapent toujours.
Malheureusement,
voilà. C'est... Même si seulement 108 cas de
fausses... Faites attention, ne répondez pas à ce genre d'appel.
Oui. Même si seulement 108 cas de ces fausses déclarations de revenus avaient été recensés vendredi passé, bien sûr, Revenu Québec tient à informer la population que des fraudeurs utiliseraient des données déjà compromises et récupérées, entre autres, sur Internet pour produire de fausses déclarations. Donc, Revenu Québec n'a pas été victime de vol de données ou d'une cyberattaque. Ce sont des malfaiteurs qui ont obtenu des données, des renseignements sur les citoyens et qui ont fait des déclarations de revenus à leur insu. Alors, comment... C'est, sincèrement, hein, j'aimerais...
On doit avoir du mal à se remettre de ça avec...
Oui, non, mais t'as vu comment je t'ai regardé.
Dans tout ce qui est légal, paye d'abord et je te rembourse après, donc c'est quelques difficultés.
Voilà, mais décidément, en fin de compte, on se dit, comment est-ce qu'on peut se protéger contre ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut se protéger? On ne peut pas. Voilà. Vous n'êtes pas trop perdre de temps, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va écouter de la musique. De la nouvelle musique, du nouvel album,
oui.
Qui n'est pas encore sorti, mais le tube, j'aime bien ce mot, hein. Letter to You,
allez,
Prince,
on y va.
Bruce Springsteen.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. True.
dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter.
Alors maintenant, on va parler de la 18e édition du festival Quartier Danse, parce que ça commence demain. Alors il faut savoir, pour beaucoup connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le festival Quartier Danse, eh bien, il a pour mission de démocratiser la danse contemporaine sous toutes ses formes, en la rendant accessible et surtout en l'amenant là où elle n'est pas, c'est-à-dire dans les rues, dans les parcs, les marchés publics, les musées, les garderies, les organismes communautaires. Donc le Festival Quartier Danse est heureux d'annoncer le lancement de sa 18e édition qui aura lieu en ligne et en plein air du 11 au 20 septembre prochain. Durant les 10 jours de festival, 16 co-créations de chorégraphes et de réalisateurs montréalais seront mis en ligne gratuitement sur la nouvelle plateforme de diffusion web du FQD. Voilà, entre le 11 et le 18, il y a 2 courts-métrages qui seront mis en ligne quotidiennement à 11h, accompagnés d'entrevues avec les artistes.
Tous les jours.
Ça, c'est bien.
Mm-hmm.
Oui. Quotidiennement, oui, c'est ça, tous
oui,
les jours. De plus, les passants qui seront dans Montréal pourront profiter de 17 performances extérieures qui vont être faites dans le quartier des spectacles, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au Musée McCord et dans le Sud-Ouest. Et il y a des chorégraphes qui vont s'approprier les places publiques pour des performances spontanées. Le lancement de la programmation aura lieu demain, 11 septembre, en après-midi, au Jardin Gamelin du quartier des spectacles.
Ah, j'espère qu'il fera beau. Hein.
Bon, on leur souhaite aussi, surtout qu'il n'y ait pas de pluie. Voilà.
Ouais.
Donc, ils vont présenter des performances inédites. Barbara Caneratoni Diabo, chorégraphe et danseuse Mohawk de la communauté Kanawake, offrira une performance en trio, accompagnée des interprètes Victoria May et Ivani Aubin-Malo. Kira Jane Green présentera un duo extrait de son court-métrage Touch, interprété par Emmanuel Martin et Charles-Alexis Desgagnés. Et le film au complet, qui est inspiré par le confinement, la pandémie et la distanciation sociale, donc très intéressant, sera disponible sur le site web du Festival Quartier Danse vendredi à partir de 11h, c'est-à-dire demain à partir de 11h du matin, pour lancer la programmation en ligne de cette 18e édition. Voilà. La co-création d'Andrea Penna et de Bobby Leon, le court-métrage Monique sera également mis en ligne demain. Alors, il y a beaucoup de personnalités publiques qui appuient le FQD, qui seront présentes, alors entre autres Monique Simard, présidente du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles. Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au conseil des arts et des lettres du Québec. Waouh, c'est long, hein? Et Benoît Doré, président du comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, qui prendront la parole pour lancer la programmation 2020 du FQD.
Que des grosses têtes qui seront là.
Que des grosses têtes. Et nous, plus petites têtes. On viendra. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site Quartier Danse, quartier au pluriel, danse au pluriel, quartierdanse.com. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous annoncer au niveau de la danse.
Au niveau Fulgence, de la danse, oui, on va rester dans le domaine culturel. Culture, oui. Montréal qui a une intéressante réflexion de culture d'ailleurs sur le racisme, les inégalités, revient. On n'a pas le choix. C'est des sujets qui sortent tous les jours maintenant. Donc l'année 2020 a révélé son lot d'urgences et de fractures. 2020. Voilà, parmi elles, la réalité du racisme et des inégalités que subissent les personnes issues des diversités et les autochtones n'a jamais été aussi vive. On en parle, que ce soit ici ou bien ailleurs, dans les journaux, tout le monde en parle. La mort de George Floyd à Minneapolis en mai dernier a révélé avec force la nécessité de remettre en question nos systèmes de valeurs et d'effectuer un examen approfondi de notre modèle de société. C'est Culture Montréal qui en parle. Donc les milieux culturels ne peuvent faire l'économie d'une telle réflexion et doivent poser des gestes encore plus concrets pour lutter contre la discrimination raciale des individus, des peuples et de leurs pratiques artistiques. Donc depuis quelques années déjà, Culture Montréal mène à son échelle des réflexions sur ces enjeux, dont l'aboutissement a été la réalisation d'un plan d'action il y a de cela 2 ans. Génial. C'est pourquoi Culture Montréal entreprend d'ailleurs dès maintenant une restructuration de son chantier diversité, inclusion et représentativité. Il était temps. Cette restructuration, dont les résultats seront présentés en octobre 2021 à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, s'articulera autour de 3 engagements. Mieux s'informer et former, mieux s'informer et se former dans une perspective de justice sociale et d'équité culturelle et territoriale, revoir le plan d'action 2018-2020 à la lumière des nouveaux apprentissages et du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM, intitulé « Racisme et discrimination systémique dans les compétences de la ville de Montréal ». Et puis, troisièmement, devenir le meilleur allié possible afin de lutter contre les inégalités systémiques et favoriser l'inclusion et l'équité au sein des milieux culturels. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les enjeux de diversité, d'inclusion, d'équité nécessitent aussi l'écoute et une réflexion approfondie en collaboration, bien sûr, avec les parties prenantes concernées. Donc, elle nécessite ainsi du temps que Culture Montréal souhaite prendre pour comprendre ces enjeux en profondeur. Voilà. C'est... Je me suis dit, il faut en parler. On en parle. C'est
bien
pas...
sûr.
On en parle. Ou... Voilà, les autres vont en parler. C'est comme dit, rêver. Si tu ne rêves pas, il y a quelqu'un d'autre qui va rêver à ta place. Voilà. Donc, merci. Par conséquent, Culture Montréal amorce aussi cette démarche avec tout le sérieux, l'humilité et le respect qu'il faut pour devenir un allié utile et pertinent dans ce combat que nous menons tous. Voilà. C'est...
On a, qu'est-ce qu'on a rajouté à ça, non?
Tout est dit, tout est limpide.
Le geste est posé.
Le geste est... Voilà. Et puis, il voit loin. On parle de 2021 déjà, là. Voilà, c'est l'Assemblée générale.
Tout doucement, on y arrive, hein, Fulgence.
Oui, j'espère qu'on va arriver. Qu'on va arriver à quelque chose, oui. Sinon, si le temps ne le permet, avant d'aller en musique, on va en musique déjà.
Mais on ne va pas tarder à y aller, mais tout à l'heure. Mais on ne sait même pas. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme musique, au fait, Maurice, pour tout à l'heure?
Un remix de Bob Marley, par un de ses fils.
Ça, c'est bien, par un de ses fils.
Repris par un de ses fils. Voilà.
Ça, c'est bien. Lequel? Tu ne le sais pas.
Stephen.
D'accord.
Stephen Marley.
Bon, écoute, alors.
Et un autre comparse avec Jason Bentley aussi.
Ouais, c'est super, ça va nous faire bouger sur nos sièges, ça. En
Three
tout
little
cas,
birds.
Moi, ça va me faire bouger. Alors, on y va.
This morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright.
this morning, smile with the rising sun.
Remix de Steven Marley, original de son père, oui. Little Bird. Ouais,
c'était excellent comme d'habitude.
Bon.
Alors, en arrivant vers la fin de cette émission, je tenais à remercier de nouveau Ariel Ifergan d'avoir été avec nous pour Adieu Monsieur Hoffman, qui va se jouer au Théâtre du Rideau Vert, je le répète, à partir du 29 septembre. Donc, vous pouvez acheter vos places dès à présent. C'est une belle histoire, c'est une histoire dans l'histoire, il faut,
Et vous l'avez bien entendu, il n'y a que 150 places, personne autorisée sur les 450.
Dans le théâtre, alors profitez-en voilà. Parce que...
Ne perdez pas trop de temps.
C'est à ne pas rater, voilà.
Voilà,
Il faut aller le voir, c'est aussi dans l'histoire, c'est aussi dans le souvenir. C'est tourné un petit peu en mode plus, un peu plus comédie, mais il y a des questionnements qui se font à travers cette histoire. Et ça vaut la peine d'aller se poser ces questions.
Ce que Paris a vécu sous l'occupation, ce que les gens...
Aussi, voilà, c'est un pan de l'histoire.
Un pan de l'histoire.
De France aussi, c'est vrai. Alors, on va se retrouver demain. Avec d'autres nouvelles et d'autres... Est-ce qu'on a un invité ? Ah oui, demain. Demain, on va avoir un autre invité. On va parler cinéma demain. Alors là, je vous laisse attendre. Je vous présenterai juste demain.
Et bien plus, c'est ton invité. Tu me regardes. Est-ce qu'on a un invité ?
Oui.
Tu me regardes. C'est pas
moi. Oui, il y a un invité. Il y a un invité demain pour le cinéma. On va parler d'un film qui a été présenté à Fantasia puis qui est en ce moment sur les écrans. Et voilà. Donc... Je vous reparle de tout ça demain. Vous allez voir, ça va être super intéressant. C'est aussi autre chose. À tout bientôt. Merci Maurice Bolduc. Merci Fulgence. Merci à vous tous de nous avoir suivis.
On dit merci.
Ouais,
on
dit à demain.
Moi, je les appelle nos fidèles.
À demain.
Merci. Et puis, prenez soin de vos minutes. Ciao.